Radio Prague, les informations.
Bonjour, selon Transparence internationale, la République tchèque s'est améliorée en matière de lutte contre la corruption. Selon un sondage, Angela Merkel n'inspire plus confiance aux Tchèques et ce, au contraire, du pape François. Et puis enfin, culture, le Théâtre des États propose un concert spécial ce mercredi à l'occasion du 260e anniversaire de la naissance de Mozart. La République tchèque est passée en 2015 de la 53e à la 37e place dans le tout dernier index de perception de la corruption publié chaque année par Transparence internationale. Selon le bureau tchèque de l'ONG, ce nouveau classement du pays pour l'année passée représente une très bonne amélioration. Selon lui, celle-ci est due notamment aux efforts constants menés par les autorités tchèques pour lutter contre la corruption et ce depuis le gouvernement de Petr Nečas. C'est le Danemark qui arrive en tête de ce classement à l'échelle mondiale, suivi de la Finlande et de la Suède. Le ministre de la Santé a assuré ce mercredi que la République tchèque n'était pas menacée par le virus Zika, dont une épidémie frappe l'Amérique latine et dont quelques cas ont été relevés en Europe ces derniers jours. Je voudrais rassurer les gens, le risque de transmission de ce virus en République tchèque est pratiquement nul, a-t-il déclaré. Svatopluk Niemeček conseille néanmoins aux femmes enceintes de ne pas voyager dans les pays les plus touchés outre-Atlantique. Une liste de ces pays sera prochainement établi en coopération avec le ministère des Affaires étrangères. Si de plus en plus de Tchèques, 59% en décembre, affirment faire confiance au président de la République, Miloš Zeman, celle que leur inspire Angela Merkel ne cesse de baisser, tandis que 55% de Tchèques avaient une opinion positive de la chancelière allemande en avril 2014, un chiffre qui faisait d'elle la personnalité politique internationale la plus appréciée. Ils ne sont plus que 19%, moins de 2 ans plus tard, selon le dernier sondage réalisé en fin d'année dernière par l'Agence pour l'étude de l'opinion publique. Les résultats de ce sondage ont été communiqués ce mercredi. La crise migratoire constitue bien entendu la cause principale de cette perte de popularité. 68% des personnes interrogées indiquent ne plus avoir confiance en la chancelière, chose presque étonnante en République tchèque. C'est donc le pape François qui bénéficie des préférences des Tchèques. Le Saint-Père inspire confiance à 67% d'entre eux, loin devant notamment Barack Obama ou le Premier ministre slovaque Robert Fico. Culture, le Théâtre des États Stavovské Divadlo à Prague célèbre ce mercredi soir le 260e anniversaire de la naissance de Wolfgang Amadeus Mozart avec un concert donné par l'ensemble de l'Opéra du Théâtre National. C'est au Théâtre des États que le célèbre compositeur autrichien a présenté en 1787 la première de son Don Giovanni. À l'instar de Vienne et Salzbourg, diverses manifestations se tiendront à Prague tout au long de cette année. Et ce, dans le cadre donc des célébrations du 260e anniversaire de la naissance, mais aussi du 225e anniversaire de la mort de Mozart. On passe au sport et au tennis. Andrea Hlavatchkova et Lucie Radetzka se sont qualifiés pour la finale du double dames de l'Open d'Australie, et ce, en battant la paire chinoise composée de Xu Yifan et Zheng Zaizai en 3-7 ce mercredi à Melbourne. Pour la première fois de leur carrière, les Tchèques disputeront donc la finale de l'Open d'Australie. Elles y seront opposées à la Suissesse Martina Hingis et à l'Indienne Sania Mirza. Elles participeront à cette occasion à leur 5e finale d'un tournoi du Grand Chelem. Médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, Andrea Hlavatchkova et Lucie Radetzka ont déjà remporté Roland-Garros en 2011 et l'US Open, c'était en 2013. On termine avec un mot de météo. C'est un temps gris et pluvieux, bref, maussade qui règne sur l'ensemble du territoire ce jeudi. Jeudi qui est le jour de la fête des hôteliers. Pas de quoi désespérer pour autant. Le retour du soleil est annoncé pour vendredi. Quant aux températures, elles restent supérieures aux normales saisonnières puisqu'elles varient entre 7 et 12 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Qui a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Très bonne écoute. faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue pour la suite de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Merci tout d'abord à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. On passe au programme de ce mercredi. La République tchèque a amélioré d'une manière significative sa position dans l'indice de perception de la corruption. La galerie Moderna expose la création française d'artistes tchèques et enfin, dans la rubrique historique, un entretien avec l'historien et géographe Jean Cellier, auteur de l'Atlas des peuples de l'Europe centrale. Bonne écoute à toutes et à tous. La République tchèque a amélioré sa position dans l'indice de perception de la corruption publié chaque année par le bureau berlinois de l'ONG Transparency International. Arrivée à la 37e position, elle a ainsi remonté de 16 places par rapport à l'année précédente. Ce classement, qui existe depuis plus de 20 ans, a mesuré cette année le degré de la corruption dans l'espace public dans 168 pays du monde. L'indice de perception de la corruption est basé sur des enquêtes réalisées avec des hommes d'affaires, des analystes de risque et des universitaires. Ces derniers évaluent, entre autres, la capacité des institutions gouvernementales à réprimer la corruption, l'efficacité des mesures adoptées ou le taux d'abus du pouvoir. En tête du classement s'est placé, tout comme dans les années précédentes, le Danemark, suivi de près par d'autres pays scandinaves, en que la Corée du Nord et la Somalie. Le directeur du bureau tchèque de Transparency International, David Ondráčka, présente le succès de la République tchèque qui, après de nombreux échecs, commence enfin à améliorer sa position. Ce mercredi, vous avez présenté les résultats de perception de la corruption de 2015 et la République tchèque s'est placée sur la 37e position, ce qui représente une forte amélioration par rapport à l'année précédente où elle a occupé la 53e place. Selon vous, quelles sont les principales raisons de cette évolution?
Nous sommes très contents de cette amélioration et ce bon résultat pour la République tchèque. C'est une tendance positive. Pour moi, il y a plusieurs raisons. La plus importante, c'est le travail de police et procureur pour détecter et investiguer les cas de corruption, évasion fiscale et qui touche maintenant aussi l'homme politique, chef d'entreprise ou d'autres personnes avec haute position. Deuxième raison, c'est que les connexions clientélistiques au niveau national ou régional sont souvent détruites maintenant. Et je pense que c'est un très bon signal pour les sociétés. Troisième raison pour moi, c'est que nous avons plus d'actifs sociétés civiles. Beaucoup des activistes sont très actifs au niveau local, ils regardent des dépenses publiques ou décisions publiques et ça aide à changer la politique au niveau local ou régional. Et dernièrement, je pense qu'il y a aussi un changement positif au secteur privé, c'est une bonne chose.
Dans quelle mesure, selon vous, alors ces changements sont-ils dus aux activités du gouvernement de Bohuslav Sobotka qui considère la lutte contre la corruption comme une de ses priorités?
Cet index ne mesure particulièrement le gouvernement, le ministère ou la décision particulière, mais c'est plutôt la tendance qui est long terme, mais je pense que cet changement positif a commencé avec le gouvernement de Nečas, mais ce gouvernement continue à pratiquer réformes anticorruption qui sont positives et efficaces. Et j'ai aussi apprécié qu'il y a moins scandales de corruption maintenant. Et c'est aussi signal positif pour la société.
S'il s'agit de la 37e position à l'échelle mondiale, où se trouve la République tchèque en comparaison avec les autres pays européens?
Il y a beaucoup de progrès. La République tchèque a amélioré ce résultat, mais nous devons travailler pour être au niveau de l'Union européenne. Il y a beaucoup de pays de notre région qui sont mieux que la République tchèque, par exemple Pologne, Slovénie ou Estonie. Mais généralement, le plus important pour moi, c'est la tendance. Alors, maintenant, nous ne pouvons pas finir et dire c'est fini, nous pouvons reposer. Nous devons travailler ensemble pour améliorer la situation en futur.
Jusqu'à 28 février prochain, la Galerie Moderna, située sur le quai de Prague, propose une exposition consacrée aux artistes tchèques qui ont créé en France tout au long du XXe siècle. De František Kupka à Miloslav Moucha, en passant par Jan Zrzavý, Tuajen, Josef Šíma ou Václav Boštík, ce sont les œuvres de plusieurs générations d'artistes tchèques de renom qui sont à redécouvrir jusqu'à la fin du mois de février. C'est un sujet signé Anna Kubišta.
2 ans, c'est le temps qu'a mis la Galerie Moderna à rassembler les œuvres présentées dans le cadre de cette exposition et pour les faire venir jusqu'à Prague afin de les présenter au public et de, peut-être, puisque c'est la vocation des galeries, de réussir à les vendre. En attendant, il est possible de venir découvrir des collages de Jiří Kolář ou même de Tuajen et Adolf Hofmeister, des huiles ou gravures de František Kupka, des dessins d'Otakar Kubin et bien d'autres encore. Martin Zeman est le directeur de la Galerie Moderna. Il détaille sur quels critères s'est faite la sélection des œuvres exposées.
La condition sine qua non pour exposer les œuvres réalisées en France par ces artistes tchèques était l'influence que la France avait pu avoir sur elle. Chaque œuvre est spécifique, a sa propre histoire, son âme. L'influence française y est présente, et surtout celle de Paris, puisque des années 1920 aux années 1970 au moins, la ville a été la Mecque de l'art mondial. Ces artistes ont été forcément influencés, débarqués de notre modeste petit étang tchécoslovaque. Ces artistes ont dû être pris de vertige en voyant ce qui se faisait à Paris.
Et en effet, plusieurs générations d'artistes tchèques et slovaques ont fait le voyage et souvent se sont même installés dans l'Hexagone, certains même de manière définitive, comme František Kupka, Otakar Kubin, le couple Tuajen-Štýrský, Josef Šíma ou encore Jiří Kolář. Après 1948 et le coup de Prague, souvent pour des raisons politiques, mais tout au long de la première moitié du XXe siècle, c'est parce que la France et Paris fonctionnent comme un aimant pour les artistes du monde entier, en quête d'inspiration et de stimulation, comme le développe encore Martin Zeman.
Pour les artistes tchèques, la France et Paris étaient attractives pour une bonne raison. Paris était la ville où il fallait être pour tous les artistes. Et la Tchécoslovaquie était un petit pays isolé. Dans cette exposition, nous avons voulu condenser tout le XXe siècle. Donc ça commence avec František Kupka, qui déborde un tout petit peu sur la fin du XIXe siècle. Mais pour une bonne raison, ce sont des huiles et ce n'est pas tous les jours qu'on peut tenir entre ses mains des huiles de Kupka. C'est un vrai miracle. Sinon, en effet, on embrasse toute la période allant des années 1920 et on arrive au peintre encore actif Miloslav Moucha.
Tous ces peintres tchèques ont fait une grande partie, voire la majeure partie de leur carrière artistique en France et jouissent pour certains d'une certaine notoriété dans leur pays d'adoption. Martin Zeman note d'ailleurs que leurs œuvres sont recherchées dans le petit monde des collectionneurs français.
J'ai plutôt une longue expérience à ce niveau-là depuis 1992 et je sais ce qu'on collectionne en France. Au départ, j'avais plutôt un préjugé et je me disais que les œuvres des artistes tchèques, notamment de ceux qui ont vécu en France, n'attireraient pas autant les Français que les Tchèques. C'était une grossière erreur. Je connais plusieurs collections de Français qui n'ont absolument aucun lien avec la Tchéquie. Ils collectionnent des œuvres de l'art mondial, dont des œuvres d'art tchèque. Ils ne font pas la différence et l'origine l'origine de l'artiste n'a pas d'importance. Ce qui en a par contre, c'est la qualité de l'œuvre et en quoi l'artiste a enrichi l'art dans son ensemble. C'est très différent de l'approche tchèque. Nous sommes plus patriotes et dès qu'une œuvre tchèque apparaît sur le marché, nous sautons dessus. Dans les ventes aux gens chers, on va acheter tchèque et non pas français par exemple. Là-bas, le raisonnement est différent. À ce niveau-là, le monde est en avance sur nous.
Tam jsou vyvolší, a koupíme si ho. A Francouze nekoupíme, tak tam je to jiný. Ten svět je napřed.
Plus d'informations sur cette exposition au www.galeriemoderna.cz.
C'est ainsi que s'achèvent ces faits événements. Merci pour votre attention et on passe maintenant à la deuxième partie de notre émission. Avec leur ouvrage « Atlas des peuples d'Europe centrale » qui a bénéficié de plusieurs rééditions depuis sa première parution en 1991, les historiens et géographes André et Jean Cellier offrent une grille de lecture qui permet d'y voir un peu plus clair sur la mosaïque de peuples qui compose cet espace du vieux continent et sur les problématiques qui les traversent. Parmi la vingtaine de peuples portraiturés dans ce livre publié aux éditions La Découverte, figurent évidemment les Tchèques. Jean Cellier est revenu sur cette entrée, celle qui nous intéresse plus particulièrement dans un entretien pour Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire.
Nous avons pris le parti de commencer au début du 19e. Or, qu'est-ce qui se passe au début du 19e ? Les peuples d'Europe centrale, tous, sont soumis à l'un des empires voisins. Autrement dit, la vingtaine de peuples qui habitent l'Europe centrale sont soumis soit du côté ouest à l'impérialisme germanique, qui a deux visages, prussien et autrichien, au sud, l'impérialisme ottoman, et à l'est, l'impérialisme russe. Qu'est-ce qui se passe ensuite? À partir de 1815, c'est l'éveil des nationalités, et ces 20 peuples, le récit va le montrer, ces 20 peuples, petit à petit, obtiennent leur indépendance, leur autonomie, leur indépendance, et sont aujourd'hui tous indépendants.
Alors parmi ces 20 peuples, il y a les Tchèques. Qu'est-ce qui spécifiquement pour les Tchèques les rattache à cet espace d'Europe centrale?
Ce que je viens de dire, c'est-à-dire que en 1815, ils n'étaient pas indépendants. Ils se trouvaient sous l'empire des Habsbourg depuis le début du XVIe siècle. Ils avaient été le royaume de Bohême avait eu son heure de gloire auparavant, notamment du temps de l'empereur Charles IV, parce que le royaume de Bohême faisait partie du Saint-Empire depuis le début. Donc ce qui caractérise les Tchèques, à mon avis, c'est qu'ils ont toujours été tournés vers l'ouest, très tournés vers l'ouest et en quelque sorte inclus dans le monde germanique.
D'ailleurs, le monde germanique, l'Allemagne, qui peut se définir elle-même comme membre, qui se définit comme membre de la Mitteleuropa, vous ne l'avez pas inclus dans cet espace.
Mais non, puisque on prend, au fond, l'idée de cet atlas, c'est de prendre comme sujet du récit tous ces peuples, qui ont dû conquérir leur indépendance à l'époque moderne, alors que dans les récits habituels, on parle les historiens parlent essentiellement des conflits entre puissances. Et les peuples d'Europe centrale sont des objets. Nous avons voulu en faire des sujets. Voilà. C'est ce qui fait l'originalité de l'ouvrage.
Et quelles sont les problématiques auxquelles vous avez été confronté avec votre père, André Cellier, pour concevoir cette entrée, les Tchèques et les Slovaques? D'où viennent ces peuples?
Ces peuples sont quand même très proches. Ils parlent des langues slaves de l'Ouest, comme d'ailleurs les Polonais. Et quand on remonte dans le passé, du point de vue linguistique, du point de vue ethnique, il n'y a pas de différence notable. C'est leur histoire qui les a distingués, puisque les Tchèques étant dans le Saint-Empire, enfin le royaume de Bohême étant dans le Saint-Empire a vécu d'un côté, tandis que les Slovaques ont tout de suite, enfin très tôt, il y a 1000 ans encore une fois en gros, soumis par les Hongrois. Et la Slovaquie n'existait pas. Avant qu'on lui donne ce nom à l'époque moderne, ça s'appelait la Haute-Hongrie. Voilà, donc leurs deux histoires sont distinctes en même temps. Ces deux histoires, en 1918, elles convergent. Donc, entre 1918 et 1993, on est bien obligé de les traiter ensemble. Et ensuite, elles redivergent. Voilà. Bon.
Qu'est-ce que ça implique pour ces peuples d'Europe centrale, le fait d'avoir fait partie d'États plurinationaux, que ce soit sous la domination des Habsbourg, ou ensuite à l'échelle de la Tchécoslovaquie, et notamment dans l'entre-deux-guerres?
Au temps de l'Autriche-Hongrie, l'Empire était plurinational. Bon, les différents peuples étaient traités de différentes façons. Au sein de la partie autrichienne, dont faisaient partie les Tchèques, on peut pas dire que les Tchèques subissaient une oppression au sein de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ils étaient le plus souvent bilingues, bon, et assez bien intégrés. En revanche, les Slovaques, au sein du Royaume de Hongrie, ont dû subir une politique de magyarisation. Alors après, quand la Tchécoslovaquie, oui, a été mise en place, c'était un nouvel État plurinational. On a dit que c'était une Autriche-Hongrie en miniature. Mais ce qui caractérise la Tchécoslovaquie dans l'entre-deux-guerres, c'est que c'était une démocratie parlementaire et qui respectait les droits des minorités linguistiques, dont les Allemands, des Hongrois, des Polonais, des Ukrainiens, ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays d'Europe centrale à la même époque. La situation s'est gâtée quand les nazis ont pris l'ascendant chez les Allemands des Sudètes au milieu des années 30. Mais auparavant, ça fonctionnait très bien.
Alors, il y a une autre particularité à cet espace d'Europe centrale, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, il est soumis au bloc soviétique, à la Russie soviétique.
Si on repart encore de 1815 avec les impérialistes, bon, les Ottomans, on n'en parle plus, mais on se retrouve lors de chacune des deux guerres mondiales avec un affrontement entre impérialisme germanique et impérialisme russe. Bon. L'URSS, c'est un avatar de l'impérialisme russe, qui, en 1945, effectivement, est complètement victorieux en Europe centrale.
Qu'est-ce que signifie aujourd'hui la nouvelle appartenance de ces pays d'Europe centrale, et en particulier de la République tchèque, à des organisations comme l'OTAN et l'Union européenne?
Il est bien évident que l'appartenance à l'Union européenne, et surtout l'appartenance à l'OTAN, c'est évidemment une garantie contre le retour d'impérialisme russe, notamment, bon, en se mettant sous le parapluie américain. Bon, ça, c'est parfaitement clair. Les Tchèques et les Slovaques, une fois qu'ils sont entrés dans l'Union européenne, ils se retrouvent, comme tous les membres de l'Union européenne, partagés entre des aspirations nationalistes qui restent vives, et d'autant plus vives qu'elles n'avaient pas été satisfaites très tôt dans l'histoire, donc partagées entre ces aspirations-là, et le souci de coopérer avec les voisins aussi bien que possible. Bon. Mais cette question se pose à eux exactement dans les mêmes termes qu'elle se pose aux États membres fondateurs de l'Union européenne aujourd'hui. Hein. Je ne vois pas en quoi leur situation est différente de la nôtre, de ce point de vue.
Voilà, c'est la fin de ce programme qui vous était présenté par Alžběta Tichá. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site de Radio Prague www.radio.cz/fr ainsi que sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Ahoy!